Merci Nicolas. Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Il y a une expression dans les églises qui se réclament de la réforme qui dit « Saint-Père réformanda ». Se réformer sans cesse. Et je crois que nous sommes dans un temps où Dieu est en train de nous réformer, de changer des choses dans le cœur de son Église. J'ai été très encouragé par ce qu'a pu partager Étienne un petit peu au sujet du fait que Dieu était en train de faire des changements au milieu de nous. Je crois vraiment que c'est le cas, je confirme ça. Et je pense qu'on est dans un temps, et j'espère que vous me permettrez ce matin de nous secouer un petit peu. Il y a des moments où on aime bien être encouragé. Et puis je pense qu'il y a des moments aussi où il faut qu'on soit un peu remué et secoué par le Seigneur. Parce que les temps dans lesquels nous vivons nécessitent que nos cœurs et que notre culture soient réformés par le Seigneur. La première chose que je voudrais vous dire ce matin, c'est que l'Église est une maison de prière. Quand je parle de l'Église ici, je parle de l'Église comme étant un corps rassemblé, c'est-à-dire les chrétiens qui forment le peuple de Dieu dans un endroit, dans une région, dans une ville. Quand je dis que l'Église est une maison de prière, est-ce que vous dites amen à ça? Vous l'avez dit. J'ai remarqué qu'en fait, nous sommes très forts pour définir ce que devrait être l'Église. Il y a beaucoup de débats là-dessus, en fait. Avec ma famille, en 2018, on a fait un tour des églises de Nantes. Donc quasiment chaque dimanche, on allait dans une église différente. On en a visité 18. Et toutes étaient extrêmement différentes dans leur modèle, dans leur façon de vivre l'église. Et donc on a tous une notion de ce que devrait être l'église ou de ce à quoi elle devrait ressembler. Mais la question que je voudrais nous poser ce matin, c'est « Et si nous écoutions ce que Dieu dit lui-même ?» de son Église. Qu'est-ce que Dieu dit de sa propre maison? Le premier passage que je voudrais lire avec vous, c'est dans Ésaïe au chapitre 56. On va lire à partir du verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, les étrangers c'est nous, hein? C'est ceux qui ne sont pas juifs. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc Dieu nomme lui-même sa maison, il lui donne une identité, il dit « Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. » Le mot « maison », en hébreu c'est « bayit » ou « bet », signifie l'endroit où on habite. Jusque-là, ça va. Mais ce mot a un double sens en hébreu, et d'ailleurs c'est même le cas en grec aussi. Il veut dire aussi famille. Et ça signifie que quand nous parlons de la maison de Dieu, c'est en fait nous rassemblés qui sommes ensemble son habitation. C'est quand même assez extraordinaire de penser que nous, rassemblés, nous sommes une habitation pour le Dieu du ciel. Et c'est comme si Dieu semble imaginer les choses à sa manière, et sa manière de voir, c'est la suivante. Je veux habiter parmi les hommes. Je veux être leur Dieu, je veux être votre Dieu, et je veux que vous soyez mon peuple. Il imagine ça de cette manière-là quand il parle de sa maison. Et là où il habite avec nous dans une relation d'amour éternelle, où il nous donne son affection, ses bénédictions, et c'est même un lieu où la souffrance disparaît. Et en fait, dans la Bible, on voit ça, on l'aperçoit à deux endroits différents. D'abord dans la Genèse, où on voit Dieu qui se promène dans le jardin avec l'homme, qu'il a placé là, dans une relation en disant, voilà, je suis avec toi, je te donne un territoire dans lequel tu peux être bien, avoir tout ce dont tu as besoin. Et il y a une communion initiale, comme ça, qui est extraordinaire. Et Dieu est au milieu des hommes et il est en relation avec eux. L'autre moment où on voit ça, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 21, le dernier livre de la Bible, où il est dit que Dieu établit sa demeure au milieu des hommes, et la souffrance disparaît, et sa lumière éclaire chacun, et il est le Dieu de ce peuple-là, et ce peuple-là, eh ben, adore Dieu au quotidien, je vais dire. Donc, finalement, c'est le plan initial, et c'est le plan final de Dieu de demeurer au milieu de nous. Mais, il y a quelque chose entre les deux. D'abord, il y a eu cette chute, ce péché qui nous a séparés de cette présence de Dieu. Et finalement, le rêve de Dieu, en fait, s'est brisé. Et l'homme a fait un autre choix. Et en faisant ce choix de s'éloigner de Dieu, il a condamné l'humanité à être loin de Dieu. Mais Dieu avait un plan. Un plan pour restaurer la relation avec lui. On va y revenir. Donc ça, c'est la maison, l'endroit où Dieu habite. Mais pourquoi est-il dit que c'est une maison de prière? Si on regarde par rapport à la façon dont on pourrait imaginer une église, c'est pas toujours ce qui ressort le plus. En tout cas, c'est ma perception. On peut être d'accord pour dire que quand on rentre dans une église, ici, bien sûr, ou ailleurs, on pourrait dire oui, c'est une maison, c'est la maison de Dieu. Mais dans quels endroits vous rentrez, dans quelles églises vous rentrez en vous disant waouh, ici c'est une maison de prière. Donc ce que semble suggérer ce verset d'Ésaïe, c'est que notre identité de peuple de Dieu est fondé dans quelque chose. Ce quelque chose s'appelle la prière. Et finalement, c'est pas si étonnant que ça. La prière, c'est quoi? C'est la relation que nous avons avec Dieu. C'est une connexion avec son cœur. Et c'est ce qui libère toutes les possibilités pour l'Église de briller dans ce monde. Finalement, c'est parfaitement logique. Parce que là où Dieu est, là où nous sommes en communion avec lui, là où nous prions, c'est là que Dieu est glorifié et c'est là que nous trouvons notre joie. La prière, c'est la respiration du peuple de Dieu. La prière, c'est ce qui fait que la maison de Dieu, l'église dans laquelle nous sommes, est un lieu divin, est un sanctuaire, est un lieu différent des autres. Et quand nous devenons cette famille qui se met à prier, alors nous commençons à changer de nature. Nous ne sommes plus juste une organisation humaine, Nous sommes une famille centrée sur Dieu. Et ça, ça change tout. Et la troisième chose importante dans ce verset d'Ésaïe, c'est qu'il est dit pour tous les peuples. Donc le fait que Dieu donne à son Église une nature de maison de prière, c'est quelque chose d'universel. En Jésus-Christ, nous formons, avec nos frères et sœurs des autres églises, un temple fait de pierres vivantes. Quand je vous regarde, j'espère que vous avez ce même regard, je vois des pierres vivantes. Des pierres vivantes qui sont appelées, et j'espère que vous le sentez, qui sont appelées à se rassembler pour former un temple pour Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 5, et je prends la version Semeur, il est dit « Puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Et au verset 9, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois, prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà ce que nous sommes. C'est aussi pour cela qu'on ne peut pas venir à l'église comme on irait partout ailleurs. En fait, quand nous venons à l'église, nous venons chez Dieu. C'est lui le maître des lieux. Et bien sûr, je ne parle pas simplement du bâtiment, mais je parle de ce désir en commun que nous avons de quitter nos maisons pour nous rassembler et pour aller chez Dieu. C'est ça que nous faisons. Et donc, nous nous rassemblons pour devenir une maison de prière. Est-ce que quand Dieu rentre dans ce lieu, il se dit « Ah, ici, c'est chez moi. J'aimerais ça. J'aimerais ça. J'aimerais que Dieu se dise « Ah, rue du Colombier à Angers, c'est chez moi. » Et il se sent chez lui quand il peut dire « Ce lieu est ma maison de prière. » Jésus aimait la maison de son Père. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage où il chasse les marchands du temple ? Vous vous rappelez de ça ? Jésus qui se met en colère, hein ? Oula ! Il se passe un truc là. Donc il voit des marchands dans le temple et il se met à les chasser. Il est même dit qu'il fabrique des cordes et qu'il commence à renverser les tables. Waouh ! Je ne sais pas qui lui a marché sur le pied, mais en tout cas, ça l'a mis en rogne. Et puis, l'évangile de Jean, chapitre 2, nous explique ce qui se passe en Jésus à ce moment-là. Quand les disciples voient Jésus faire ça, ils disent « Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » J'en parlais avec Séverine ce matin dans la voiture. Jésus, notre Jésus, était consumé à l'intérieur de lui par la maison de son Père. Pourquoi ? Parce qu'il avait un désir de communion avec Dieu pour lui, mais aussi que les autres rentrent dans cette communion. Et ces marchands du temple étaient un obstacle entre les hommes et Dieu. Et ça l'a mis en boule. Il était dévoré par l'amour de la maison de Dieu. Est-ce que nous qui sommes les disciples du Christ, en tout cas qui nous réclamons d'être des disciples de Christ, est-ce que nous sommes dévorés par l'amour pour la maison de Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres? Est-ce que nous avons un grand désir intérieur d'être en communion avec Dieu et que les autres le soient aussi? Est-ce qu'on a cette passion comme Jésus? Est-ce qu'on est radicaux à ce point-là? Merci Nicole. Moi, ça m'interpelle parce que je ne sais pas si je suis radical comme ça. Oui, je sais que tu l'es, Nicole. Mais je ne sais pas, mais si Jésus renversait les tables au milieu de nous, on ne serait peut-être pas content, en fait. Et ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas faire fâcher Jésus. Ce passage sur les marchands du temple, il est rapporté dans les quatre évangiles. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à peine quelques chapitres plus tard, on lui parle du temple, hein, puisqu'on revient sur l'histoire du temple, la maison de Dieu à cette époque-là. Et Jésus va dire, mais démolissez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Comme si d'un seul coup, il était passé de oh, « j'aime cette maison » à « démolissez-la, ça n'a aucune importance ». Bizarre. En fait, Jésus n'a pas aboli la maison de Dieu. Il parlait simplement des pierres qui allaient être détruites, mais que lui était en train de faire une œuvre nouvelle pour que le temple soit construit non pas de main d'homme, mais sur lui, par des pierres vivantes. Il était en train de changer la nature de la maison de Dieu. Une maison de Dieu qui allait être bâtie désormais sur lui. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y avait un problème où les gens étaient empêchés d'être en relation avec Dieu, ça mettait Jésus en boule. Un des reproches qu'il va faire aux pharisiens, c'est ça. Vous mettez des fardeaux sur les gens. Vous leur faites faire plus de choses pour qu'ils aient accès à la présence de Dieu. Alors que vous devriez être de ceux qui encourage les gens à aller devant Dieu. Et ça, ça le mettait en colère aussi, hein, contre les pharisiens. Chaque fois que Jésus était en colère, c'était souvent pour cette raison-là. Parce que la mission de Jésus, c'était de réconcilier les hommes avec le Père par la croix. Cette relation perdue à la chute, le rêve brisé de Dieu, devait être rétabli pour que nous ayons accès à la présence de Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Au moyen de la foi et de la prière. La deuxième chose que je voudrais vous dire ce matin, c'est que la clé du réveil, c'est une église qui prie. Soyons honnêtes, regardons autour de nous. Le monde s'assombrit. L'église s'assoupit. Nous sommes au milieu d'un champ de bataille. Nous sommes dans un champ d'ossements. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions en temps de paix. Spirituellement, c'est la guerre. La guerre pour les âmes. Et quelque part, je me dis, c'est mon avis, que nous devrions être bouleversés par ça. On devrait supplier Dieu de nous réveiller, de ressusciter notre esprit, d'être son armée. Il y a plusieurs siècles de cela, il y a un pasteur qui avait mis un écriteau devant son église qui disait « Le réveil ou l'enterrement ». Qui va se lever pour le réveil dans notre nation, ou même dans notre ville pour commencer? Qui peut déclarer comme Ézéchiel, je prophétisais sur ces ossements selon l'ordre qui m'avait été donné, et ces os reprirent vie? On ne peut pas ignorer ce qui se passe autour de nous. la naissance de quelque chose ou la résurrection de quelque chose dans le royaume de Dieu se produit toujours et exclusivement dans la prière. La prière, c'est le berceau de toutes les œuvres de Dieu. Tous les grands réveils de l'histoire, tous les grands mouvements missionnaires sont nés d'une intercession fervente, la plupart du temps de gens discrets, dont vous ne connaissez pas le nom, mais Dieu les connaît, lui. Il s'est servi d'eux pour enfanter ses projets, pour enfanter son plan dans le corps, dans son propre corps, dans le corps de Christ. D'ailleurs, l'Église est née dans une rencontre de prière. Acte 2. Les disciples se rassemblent et ils attendent l'Esprit Saint qui leur a été promis. Ils prient ensemble. Ils persévèrent. Et le feu vient. L'Église est née dans la prière. La plupart d'entre vous, si vous avez choisi de suivre le Christ, sans doute que des gens ont prié pour vous, pour que vous le soyez. Peut-être que vous ne le savez même pas, mais c'est une certitude. Je pense que beaucoup d'entre nous, peut-être même tous, nous sommes nés de la prière d'autres personnes. Dieu nous donne les clés du réveil. Nous les avons. Il nous les tend. Dans 2 Chroniques 7, au verset 14, il est dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà comment on transforme une nation. Qui veut le réveil en France? Attention à ce que vous allez dire. Qui veut la guérison de notre nation? Qui veut la restauration de toutes choses? Est-ce qu'on peut se contenter de voir les familles qui sont brisées, de voir l'ordre moral s'écrouler à ce point-là? C'est pas possible. Et si on veut changer les choses, Dieu nous a donné la recette. S'humilier, ça veut dire que nous allons reconnaître notre faiblesse. Donc on va pas commencer par crier très fort. On va commencer par s'humilier. Ça veut dire on va s'abaisser un peu et puis on va laisser Dieu s'élever au milieu de nous. Prier, ça veut dire qu'on va interagir avec Dieu, qu'on va se tenir dans sa présence, qu'on va lui parler, qu'il va nous parler. Chercher, ça veut dire que nous voulons son cœur. Nous voulons ce qu'il y a dans son cœur à lui, nous voulons ses désirs à lui. Nous voulons passer du temps avec lui. Si vous voulez chercher le cœur de quelqu'un, n'imaginez pas que vous allez l'avoir en claquant des doigts. Moi, le cœur de ma femme, qui pourtant m'a été offert au mariage, je ne l'ai pas encore tout à fait bien saisi. Je n'en ai pas encore saisi toutes les subtilités ou toutes les nuances. Ça va faire combien de temps, chérie? 15 ans qu'on est mariés? 16 maintenant. Et je suis encore loin d'avoir tout saisi. Alors si je veux en savoir plus sur le cœur de quelqu'un, je vais passer beaucoup de temps avec lui. Et bien sûr, si on se détourne de nos mauvaises voies, ça veut dire que, et c'est pour ça que je veux mettre le point là-dessus ce matin, c'est pour ça qu'il faut qu'on accepte aussi d'obéir et de changer de culture. Si on veut que le réveil vienne, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent au milieu de nous. C'est annoncé, c'est clair, ne soyons pas surpris, ne résistons pas, c'est pas évident, demandons le secours du Seigneur aussi pour ne pas résister. Mais au contraire, avançons vers le réveil. Si nous changeons ces choses, alors l'Église va changer. Nous aimons beaucoup l'Église du Colombier, parce que c'est une famille, c'est notre famille. Et quand on est arrivé, moi je sais que la chose qui m'a frappé ici, mais vraiment ça m'a frappé, c'est à quel point il y avait une dépendance à Dieu. Dans beaucoup de domaines. je me suis dit, waouh, cette église-là, elle cherche le cœur de Dieu. Et je me suis dit, c'est... Dieu peut faire quelque chose avec ça. Bien plus qu'avec des gens qui savent. Bien plus qu'avec des gens qui sont bien organisés. Bien plus qu'avec des gens talentueux. Et pourtant, nous avons tout ça, bien sûr. Mais surtout, il y a toujours un cœur pour chercher Dieu. Et je voudrais qu'on préserve ça, qu'on garde ça, qu'on aille même plus loin que ça. Et je pense que si on veut devenir une église de réveil, si on veut répondre à ça, alors il va falloir que nous changions pour aller vers une culture de prière au milieu de nous. Et c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous ce matin. Un encouragement qui vient du Seigneur, je crois, que je vous partage du plus profond de mon cœur. Et je crois vraiment que c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Nous sommes appelés à développer une culture de la prière dans notre Église. Si, il y a une citation célèbre qui dit « Si nous échouons dans le domaine de la prière, nous échouons dans tous les autres. » C'est une phrase de Leonard Ravenhill. Ça fait un peu peur, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on réussit dans le domaine de la prière, on réussira partout. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'Église, on doit avoir une vision et une passion pour ce monde, pour que ce monde soit sauvé, pour que les gens soient sauvés. Mais seule la prière ouvre nos yeux pour cette vision et allume à l'intérieur de nous le feu de la passion. Quelques heures de prière valent parfois, même souvent, bien mieux que des années d'activité. Même si elles sont bien organisées et bien ficelées. Alors imaginez si nous développons une culture de la prière au milieu de nous, un style de vie de prière. Qu'est-ce qui pourra arrêter le royaume de Dieu au milieu de nous? Il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est David. David a changé la culture de sa nation. Wow. Donc David, vous le connaissez, c'est un homme dont il est dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Et lorsqu'il est devenu roi, vous savez, David, il avait une relation très particulière avec Dieu, hein, très intime. Et quand il est devenu roi, il a dit, eh ben, ce que je vis avec Dieu, cette communion que je vis, moi, personnellement avec Dieu, je veux que ma nation la vive aussi. Et je fais une parenthèse, mais vous savez que, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé le débat aux États-Unis, la campagne présidentielle commence, et en fait, il y a le débat entre les candidats du camp démocrate. Et il y a une question, en fait, qu'on pose à tout candidat à une élection présidentielle, toujours, quels que soient les débats, en France c'est valable aussi. On lui dit, quelle est la première chose que vous ferez si vous êtes élu président ? Pourquoi on lui pose cette question? Parce qu'on sait que son premier acte, c'est un peu symbolique de tout ce qu'il va faire, en fait. C'est un peu la première pierre qu'il va poser. Donc si ça foire, on va se dire, hein? Donc ça, c'est vraiment très important. En gros, quelle est la chose la plus importante par laquelle vous allez commencer? Et en fait, David a dit, la première chose que je vais faire, c'est que je vais remettre la présence de Dieu au centre de ma nation. Donc à l'époque, la présence de Dieu, c'était l'arche d'alliance. Et il a dit, je vais ramener l'arche à Jérusalem. Parce que je veux que la présence de Dieu soit centrale. Je veux que mon gouvernement commence avec la présence de Dieu. Waouh ! Donc il a fait de Dieu le centre de sa nation. Et cet acte-là aura un résonnement jusque dans l'éternité. C'est l'acte fondateur de la maison de Dieu en Israël. C'est le moment où la présence de Dieu revient à Jérusalem et c'est hautement prophétique. Et alors il s'arrête pas là. Il dit non seulement je vais faire ça, mais je vais mettre des personnes autour de la présence de Dieu qui vont adorer Dieu jour et nuit. Je vais mettre en place un service. Ok, je vais prendre... Allez, soyons modestes, je vais prendre 4000 personnes pour faire ça. Il prend 4000 personnes pour chanter, prier, être autour, être dans la présence de Dieu. Ce soit un service en permanence. Les premières ressources de son gouvernement, ses premiers actes de gouvernement sont pour la présence de Dieu. Ça devrait nous interpeller. Vraiment. Quels sont les domaines, en tant qu'Église, quels sont les domaines dans lesquels nous investissons? Dans lesquels nous mettons nos ressources humaines et financières? Est-ce qu'on investit dans la prière? Est-ce qu'on investit dans des ministères de prière? Est-ce qu'on investit dans autre chose? Moi, je crois, enfin, honnêtement, David, c'était un guerrier. Ça aurait été plus logique qu'il commence par investir dans des armes de défense pour défendre son territoire, dans des murailles, peut-être dans des alliances, en faisant des cadeaux aux pays voisins pour être tranquille. Il y avait plein de choses dans lesquelles investir, qui avaient de la valeur. Mais il a dit, je commence par mettre mon investissement en Dieu. David avait choisi de mettre un centre de gravité à son règne, que ce soit Dieu qui règne. Il a fait un truc incroyable, il a mis cette arche d'alliance qui normalement était sainte et inaccessible, il l'a mise sous une tente et n'importe qui, même ceux qui n'étaient pas juifs, pouvaient venir dans cette présence de Dieu. C'était une révolution complète. C'était un acte prophétique incroyable. Et vous savez quoi? Ça a plu à Dieu. Dieu lui a dit, ouais, carrément, t'as tout compris. Je veux être au milieu de mon peuple. Je veux être accessible. Pourtant, on était sous la loi à cette époque-là. Hein. Mais on sentait déjà le cœur de Dieu de communier avec son peuple. Et ça a tellement plu à Dieu que par la bouche du prophète Amos, chapitre 9 et au verset 11, Dieu a dit, en ce jour-là, donc le jour où il renouvellerait son alliance, en ce jour-là, je relèverai la tente de David. Donc la tente de David, c'est la tente où il a mis l'arche. Hein. C'est ce service de la présence de Dieu, c'est de ça dont on parle. Je relèverai la tente de David, j'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines, je la redresserai comme autrefois. Donc Dieu a dit, ok, ça, la tente de David, c'est-à-dire ma présence au milieu de mon peuple, accessible, avec de l'adoration, ça, c'est quelque chose que je veux faire et que je vais restaurer. Et vous savez quoi? Il est en train de le faire. Vous le saviez ou pas? Dieu est en train de faire ça à notre époque. Nous avons beaucoup de chance. Dieu est en train de réveiller l'Église, de lui rappeler que c'est une maison de prière, de lui rappeler qu'il désire être le centre de toute chose. Oui, Dieu est en train de faire ça de plein de manières différentes, et notamment au travers du mouvement des maisons de prière. C'est assez ça le mouvement des maisons de prière, si vous en avez entendu parler. Autrement dit, Dieu dit à ce moment-là, ouais, j'ai bien l'intention d'habiter au milieu de mon peuple. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand l'Esprit Saint descendra sur les disciples, on l'a dit tout à l'heure, acte 2, Pierre expliquera en fait que ce qui est en train de se passer, alors c'est la réconciliation des juifs et non-juifs, il dira, mais souvenez-vous, Amos disait, je relèverai la tente de David, je réconcilierai les hommes autour de moi. Dieu est en train de faire ça, Dieu a commencé à restaurer ça avec nous. Alors ça veut dire qu'en tant qu'Église, nous devons changer certaines choses. D'abord que nous devons réapprendre à prier, individuellement et collectivement. Quand quelqu'un entre chez nous, est-ce qu'il va voir un ministère? Vous savez, dans les 18 églises qu'on a vues, quand on a fait ce tour des églises à Nantes, en fait, c'est assez facile de voir quel est le centre de gravité d'une église. Parce qu'avec les années, les gens s'en rendent même plus compte, en fait. Mais on s'en rend compte quand on vient de l'extérieur. Autour de quoi l'église tourne? Et quand elle tourne autour d'un ministère, ça se voit vraiment. On dit genre, la personne n'est pas là. C'est pas que l'église s'arrête, mais presque quoi. Ça arrive. Quel est le centre de gravité de l'église? Est-ce que ce sont des activités? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une bonne ambiance et des gens sympas? Ou est-ce que quand quelqu'un rentre ici, il se dit, waouh, ici c'est un lieu de prière. Waouh, ici il y a Dieu. Ça c'est mon rêve à moi. Je vous le partage avec grande sincérité. Je rêve, et je crois que nous sommes peut-être en prémisse de ça, en tout cas c'est mon souhait. Je rêve vraiment que nous soyons une église dont on peut dire vraiment et objectivement Dieu est le centre. Waouh, je sais pas exactement à quoi ça pourrait ressembler, mais je crois qu'on commence à y goûter. Nous devons grandir dans la prière. C'est notre priorité. Dans la vision écrite de l'église, vous savez qu'on a une vision, hein, vous savez, hein, l'église ici a une vision en 5 points. C'est marqué sur le site internet si vous avez oublié. Le premier de ces points, c'est la prière. La dépendance à Dieu. Quelle déclaration. Waouh. Nous voulons prier. Heureuse est l'église qui se construit dans la prière. Et nous avons vraiment beaucoup de chance ici parce que nous avons une maison de prière. Vous êtes au courant? Oui. Et vraiment, c'est un privilège. C'est un privilège qu'il y ait un espace là-haut qui a été mis à part, dit ça c'est un endroit où on va rencontrer Dieu. Et c'est fait pour ça. Et il se passe des choses, mes amis. Si vous venez pas régulièrement à la maison de prière, là je vous dis, il se passe des choses. Ceux qui étaient là jeudi dernier. Qui c'est qui était là jeudi dernier, le matin, le midi ou le soir? On a vécu des trucs, hein, jeudi dernier encore. Waouh. Dieu a parlé. On est sorti de là et on sentait que Dieu avait poussé des choses dans nos cœurs. Des nouveaux projets. Ces désirs qui étaient en train d'être ranimés, hein, Johanna? Il y avait des désirs comme ça dans nos cœurs qui étaient en train d'être encore, embrasés pour le Seigneur. On est sorti de là, on était embrasés pour le Seigneur. Je ne peux que honorer, et je veux t'honorer, Daniel, parce que je sais le prix que ça coûte de s'investir dans un lieu de prière comme ça. Ça coûte beaucoup, mais c'est tellement important. C'est tellement important dans le plan de Dieu. C'est tellement ça que Dieu veut faire. Merci de t'être engagé dans cette œuvre-là qui est une œuvre souvent invisible aux yeux des hommes, mais tellement visible de Dieu. Et je veux t'honorer parce que tu as persévéré aussi quand c'était pas simple. Et tu as posé les fondements de quelque chose qui va résonner jusque dans l'éternité pour cette ville. Donc, à quel moment est-ce qu'on laisse Dieu parler dans notre église? Parce que si nous sommes appelés à être des porte-paroles, j'ai entendu ça, hein, la semaine dernière, waouh, quel appel, être des porte-paroles du Seigneur, prophétique. Ben, un porte-parole, il est allé chercher la parole pour la porter au monde. Alors, ça veut dire que il faut laisser du temps à Dieu pour nous parler. Il faut qu'on apprenne à l'écouter et à redire au monde ce qu'il a envie de dire. Il nous attend pas seulement dans nos activités, il nous attend dans la prière, il nous attend dans l'éternité. Il nous attend assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons besoin d'écouter, nous avons besoin de la puissance d'en haut, nous avons besoin du cœur de Dieu. Est-ce que nous connaissons son plan ? Est-ce que nous connaissons son cœur pour cette ville ? Qu'est-ce que Dieu nous a dit récemment en tant qu'Église ? Qui sommes-nous pour lui ? Que veut-il faire ? Il est dit que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Puissions-nous être une Église qui ne fait que ce que le Père fait, qui est en train d'agir selon l'ordre de Dieu. Et je vais juste terminer, parce que peut-être que vous vous dites, mais c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous dites ça un petit peu ou pas trop ? Ouais ? Bon, si Bernard est ok, alors ça va. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mettre en place une culture de prière. D'abord, ça veut dire, et je lance un appel à chacun d'entre vous, ça veut dire que nous choisissons de mettre du temps à part pour Dieu ensemble. Voilà. Alors, je sais que ça a un prix, ça a un coût, mais il n'y a pas d'alternative. Et je ne parle pas de juste se rassembler pour prier le Seigneur, pour que chacun individuellement raconte ses problèmes au Seigneur. Ça, vous pouvez le faire chez vous, il n'y a pas de souci. Mais je parle de ces moments où on va chercher la face de Dieu ensemble. On l'a déjà fait. D'ailleurs, c'est encore gravé, pas sur nos murs, mais presque, sur les feuilles qui sont là-bas. Continuons, persévérons dans la prière ensemble. La maison de prière est faite pour ça aussi. Si nous avons le désir de venir ensemble dans la présence de Dieu, pour l'adorer, pour chercher son cœur. Ça nous parle aussi de nos habitudes au quotidien, dans tout ce que nous faisons. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien dans la communauté, ne lui dites pas « Oh, je vais prier pour toi ». Faites-le. Ne dites pas « Tiens, nous devrions prier pour ça ». Fais-le. Ça commence comme ça. Ah, je me sens pas très bien, j'ai mal quelque part. Je peux prier pour toi. Prions ensemble. Ça, c'est le début de la culture de la prière. Bien sûr, ça va encore plus loin, mais c'est aussi un style de vie. Vivons de manière à être imités dans notre vie de prière. Que des gens qui nous voient, là, ils rentrent, ils disent, waouh, ici on prie. Peut-être qu'ils sont juste de passage. Et ils pourraient se dire, tiens, on pourrait faire ça dans notre église. Vivons la prière de manière à être imités. Soyons vigilants. Jésus a dit de prier sans cesse. La prière fait partie de ce qu'on appelle les quatre persévérances de l'Église primitive. Nous sommes invités à persévérer dans ce domaine. Ça veut dire ne pas nous relâcher. Ça veut dire que c'est aussi dans la semaine. Ça veut dire qu'on refuse de se laisser voler nos temps de prière. On sanctuarise nos temps de prière, on les multiplie. J'ai même vu dans la vision, Bernard, redis-moi ça, il y avait des nuits de prière. Waouh, c'était fait à une époque ici ou... Je sais pas, je lance ça comme ça, mais waouh. Prenons des initiatives de ce genre-là. Cherchons le cœur de Dieu ensemble. Ça veut dire aussi que nous prions quelles que soient les circonstances, qu'elle soit favorable ou non, qu'on soit dans la tristesse ou dans la joie, qu'on soit dans la bénédiction ou dans l'épreuve. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de prier. Et là aussi, je nous invite à être un peu audacieux dans ce domaine, à ouvrir nos bouches. Quand on fait une rencontre de prière, que ce soit pas, enfin, c'est bien, il y en a qui vont osé prier, mais que les autres s'y mettent. Si c'est pas vraiment une habitude que vous avez de prier quand il y a plusieurs personnes, je parle pas nécessairement de l'assemblée, ça peut être un peu impressionnant, mais quand vous viendrez maintenant à la maison de prière, osez prier. Ouais. Ouvrez la bouche. Parce que j'en ai entendu plusieurs parmi nous qui osaient pas trop, voilà, notamment pendant les 3 jours, je me rappelle, qui osaient pas trop, mais quand ils ont commencé à prier, je fais wow, ils devraient prier plus souvent. Prions avec force, persévérons, ne nous taisons pas. Et si quelqu'un se met à prier, on n'est pas là en train de dire « Ah ouais, j'aurais pas dit ça comme ça. » Oh non, il prie pour ça. Oh, ah non, moi j'ai autre chose à cœur. Prions avec lui. Et après, priez à votre tour, à votre façon. Ok? On prie ensemble. Ça veut dire aussi qu'on est prêt à écouter Dieu. Est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu? Oh là là, j'aimerais tellement qu'on vive ça. Dieu nous a dit ça, on fait. Dieu nous a... Alors, bien sûr, on examine chaque chose. Hein. Je me permets de dire ça comme ça, mais hein, ça va, c'est Étienne si je dis ça. Mais si Dieu nous appelle à être une église prophétique, on dit oui, c'est Dieu qui nous dit ça. On est OK avec ça? Allez, alors on y va? Ouais, on fait ça? OK. Alors on va... Ben, on sait pas trop. On fait comment? J'en sais rien. Déjà, un prophète, il me semble qu'il faut qu'il commence par écouter, à être en présence de Dieu, et puis communier avec son cœur, et puis il va le faire. Alors on le fait. Alors faisons-le. Demandons à Dieu de nous enseigner là où on ne sait pas faire. Retenons ce qu'il nous dit. Et j'ai fait un truc cette semaine, je ne fais pas ça pour me vanter, parce que pour moi c'est normal, mais... ce qu'a dit Étienne, la prophétie qu'a dit Étienne, elle a été enregistrée. Je l'ai isolée de l'enregistrement général. Je l'ai retranscrit par écrit. Voilà, je l'ai envoyé à Bernard. Simplement pour dire, bah ouais, c'est... Voilà, si on pense que Dieu nous parle, alors on examine, mais on retient. On retient ce que Dieu nous dit, sinon la semaine prochaine, on aura oublié. Et moi, je veux pas ça. Non, non, non. Un peuple prophétique, il va... Ok. Il va retenir ce que Dieu dit. Et puis, on va être prompt à obéir. Ça veut dire que nous chérissons la présence de Dieu. Ça veut dire que nous manifestons que Dieu est le centre d'attention. Et ça veut dire que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons faire sera un débordement de notre communion avec lui. Non, non, vous n'avez pas capté. Je sais, c'est la fin. Non, non. Non, non. Non, non. La plupart du temps, comment ça se passe? Moi, je suis né dans l'église, hein, donc je veux dire, je vais pas dire que j'ai tout connu, mais... Non, la plupart du temps, on dit, tiens, on va faire ça. Puis au bout d'un moment, quand ça marche pas, on dit, ah, oh, Seigneur, ça marche pas. Bénis-nous. Viens dans notre truc qu'on a fait. Soyons honnêtes, on fait souvent comme ça. Le changement de culture, c'est « Seigneur, on passe du temps avec toi. » Quand tu nous donnes un projet, tu nous donnes une révélation, on bouge au son de ta voix. On est rempli de ta présence parce qu'on a passé du temps avec toi. Hein, Alain, des fois, les veilles du jeudi soir, là, on sent que Dieu nous remplit de lui, de sa présence, de son amour. Et du coup, quand on fait les choses, on les fait pas... juste parce qu'on en avait envie, selon notre chair, on les fait parce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, parce qu'on a ses directions, parce qu'on a son feu dans notre cœur et qu'on déborde de ça sur ce monde. Ça, c'est un changement de culture. Ça, c'est une église qui n'a presque rien besoin de faire parce que partout où elle va aller, ça va déborder. Comme un vase, ça déborde, ça coule. On va prier pour les gens, ils vont être guéris. Ouais, ouais, ouais. Alors on va me dire, ouais, mais ça déjà, ça va, on me fait, ouais, ça va. Ouais, mais plus que ça, ça va être un débordement. Et pour finir, dans toujours ce passage d'Ésaïe 56, verset 7, Dieu dit en plus, comme si ça ne suffisait pas, je les réjouirai dans ma maison de prière. Ce qui veut dire que sa présence... c'est vraiment notre joie et notre plaisir. C'est vraiment quelque chose qui est bon, qui va au-delà des circonstances, une joie profonde, une assurance, un feu, un zèle nouveau, le zèle pour Dieu qui nous dévore, une joie qui demeure. Et Dieu va nous réjouir en tant que maison de prière que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse.